VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 7 septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer, les titres.
Gabon, les observateurs européens parlent d'une évidente anomalie dans les résultats de la présidentielle.
République démocratique du Congo, le président de la CENI confirme que le travail de constitution du fichier électoral prendra 468 jours.
Trois soldats turcs tués mardi dans le nord de la Syrie. Première attaque meurtrière imputée au groupe État islamique depuis le début de l'offensive turque.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement hier les derniers tirs de missiles balistiques nord-coréens. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Évidente anomalie dans les résultats de la présidentielle au Gabon, révèlent les observateurs européens. Eddie Sango.
La mission d'observation électorale de l'Union européenne a publié une analyse des résultats de l'élection présidentielle au Gabon. Une analyse portant sur le nombre de non-votants et de bulletins blancs et nuls révèle une évidente anomalie dans les résultats finaux du Haut-Ogooué, a indiqué l'observatrice en chef de l'Union européenne, Maria Gabriel. Cette région dont est originaire le président sortant, Ali Bongo, a officiellement enregistré un taux de participants de plus de 99%. Et a permis à M. Bongo d'être réélu d'une courte tête. Contrairement à toutes les régions, les résultats n'ont pas été annoncés publiquement dans les Haut-Ogooué, fief ethnique du président Bongo, où il a obtenu plus de 95% des suffrages, privant ainsi les parties prenantes de la transparence requise par la loi, ajoute Mme Gabriel. Selon elle, l'intégrité des résultats provisoires dans cette province est remise en cause, alors que le taux de participation des 99,93% dans les Haut-Ogooué est nettement supérieur à ceux enregistrés dans les autres provinces, estimé en moyenne à 48%. Des émeutes ont suivi la publication des résultats de la présidentielle. Jean Ping, candidat de l'opposition, les conteste et se déclare élu.
En République démocratique du Congo, les travaux du dialogue politique se poursuivent à Kinshasa. Ce mardi, le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a confirmé que le travail de constitution du fichier électoral prendra 468 jours, soit 16 mois et un jour. Pour sa part, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, exige le respect de la constitution comme condition de la poursuite de sa participation au dialogue. On écoute l'abbé Léonard Santelli, secrétaire général de la CENCO.
Maintenant que le dialogue a commencé, la CENCO ne s'arrête pas, elle continue pour accompagner d'abord dans la prière, mais accompagner aussi par la sollicitude en rencontrant les acteurs qui sont au pouvoir, en rencontrant l'opposition, en rencontrant la communauté internationale pour qu'on donne plus de chances à ce dialogue qui a commencé mais qui doit se poursuivre en tenant compte aussi des exigences des uns des autres, notamment en continuant avec des mesures de décrispation, la libération d'autres prisonniers, l'ouverture d'autres médias. Aujourd'hui, la CENCO rappelle ce qui est fondamental aussi, que ce dialogue doit se faire dans le respect du cadre constitutionnel. Et les évêques attirent l'attention surtout quand ils parlent de ce cadre constitutionnel, attirent l'attention surtout en ce qui concerne les articles verrouillés. Vous connaissez les articles verrouillés concernant notamment la durée du mandat présidentiel, concernant l'alternative démocratique.
C'était l'abbé Léonard Santelli, secrétaire général de la Conférence nationale du Congo, de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au micro de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Un pont métallique datant de 1910 et situé sur la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou s'est écroulé hier après-midi au passage d'un train de marchandises à Dimbokro, à 250 km au nord d'Abidjan. Il n'y a pas de victimes selon l'AFP. Ce pont métallique enjambe le fleuve Nzi et mesure 250 mètres environ. La ligne de chemin de fer qui relie la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso aux économies et populations très imbriquées doit être rénovée et prolongée dans les années à venir pour un coût de 400 millions d'euros.
Les membres du dialogue politique libyen réunis à Tunis sous l'égide de l'ONU se sont entretenus mardi de la composition contestée du gouvernement d'union nationale. Le principal problème, le principal défi devant nous est la formation du gouvernement d'entente nationale et son approbation ultérieure par la Chambre des représentants, a dit lors d'une conférence de presse l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler. L'objectif de ces pourparlers, qui sont tenus lundi et mardi à Tunis, sous l'égide de l'ONU, est d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord interlibyen signé fin 2015 au Maroc, afin de sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. Ils interviennent alors que les forces du gouvernement d'Union nationale combattent les derniers membres du groupe État islamique, encore présent à Sirte, à 450 km à l'est de Tripoli.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois soldats turcs ont été tués mardi dans le nord de la Syrie dans la première attaque meurtrière imputée au groupe État islamique depuis le début d'une offensive turque il y a 2 semaines, selon des sources officielles. L'opération sans précédent lancée le 24 août vise à chasser à la fois ces djihadistes et les milices kurdes de sa frontière. L'attaque de mardi a fait aussi 4 blessés parmi les militaires turcs, selon les mêmes sources.
13 membres d'Al-Qaïda au Yémen ont été tués par les forces américaines lors de 3 frappes antiterroristes menées du 24 août au 4 septembre. C'est ce qu'a annoncé hier l'armée américaine. Les 3 attaques contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique ont été menées dans le centre du Yémen, dans la province de Chabwa, a précisé le commandement américain dans un communiqué, sans préciser comment ces frappes ont été menées, ni l'identité des agents tués.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement hier les derniers tirs de missiles balistiques nord-coréens et a menacé de prendre des mesures significatives supplémentaires contre Pyongyang. Précision de Nanit Talani.
La déclaration du Conseil a été adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, dont la Chine, principal allié du régime nord-coréen. C'était à l'issue des consultations tenues à New York par les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Toutefois, ces derniers ne sont pas parvenus pour l'instant à élaborer une riposte commune aux derniers tirs de missiles balistiques nord-coréens. Le Conseil va continuer de travailler sur une déclaration concernant ces 3 lancements effectués lundi par Pyongyang, a déclaré l'ambassadeur chinois Liu Jie, cité par l'AFP. La Chine est le seul allié du régime communiste nord-coréen et son principal partenaire économique, et Pékin cherche généralement à protéger Pyongyang. Mais les derniers tirs ont coïncidé avec la réunion du G20 en Chine. Les représentants des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont encore ensemble dénoncé une nouvelle fois les programmes militaires nord-coréens.
Ces craintes ici aux États-Unis, où l'on redoute que la Russie tente de faire dérailler l'élection présidentielle du 8 novembre, notamment par des piratages informatiques. Et Bagasikoura, la police fédérale a effectué une mise en garde, a lancé une mise en garde solennelle.
L'hypothèse d'une telle action déloyale de la part de Moscou se trouve renforcée par Hillary Clinton, qui a confié ce lundi ses craintes d'interférence des Russes dans le scrutin, devant parachever sa course espérée vers la Maison-Blanche. La candidate démocrate, qui continuait sa campagne mardi en Floride, fonde ses inquiétudes sur le piratage informatique qui a visé son parti en juillet, un acte au sujet duquel le président Vladimir Poutine a estimé salutaire, je cite, que ce contenu ait été diffusé auprès du public. Une telle menace visant la présidentielle est désormais prise en compte par les plus hautes autorités américaines qui, selon le Washington Post, ont ouvert une enquête associant la CIA, le FBI et des services de contre-espionnage. Officiellement, ces agences se gardent de prononcer le mot « Russie ».
Au Venezuela, l'opposition, forte de sa mobilisation historique, la semaine dernière tente un nouveau coup d'éclat aujourd'hui. Elle a appelé la population à manifester dans tout le pays en faveur du référendum révocatoire contre le président socialiste Nicolas Maduro. Appel a été largement lancé aux partisans de Maduro dont le mandat s'achève en 2019 pour qu'il défile dans tous les États du Venezuela en faveur de la paix. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Écho, John Linden.
L'opérateur télécom MTN a suspendu les nouvelles souscriptions à son service de paiement mobile en Afrique du Sud. La plateforme reste néanmoins opérationnelle pour les quelques 140 000 clients sud-africains déjà inscrits. Les souscriptions au paiement mobile de MTN restent également ouvertes dans les autres filiales africaines du groupe. Au premier semestre 2016, ce service de MTN comptait près de 36 millions d'abonnés inscrits à travers 15 pays. Plus de 1000 entreprises françaises et africaines participeront les 22 et 23 septembre prochains aux rencontres Africa 2016 à Paris, un événement destiné à booster les relations avec l'Afrique. En 2015, selon Jeune Afrique, plus de 40 000 entreprises françaises ont exporté vers les pays africains. Et bien qu'ayant perdu des parts de marché sur le continent, les ventes françaises vers l'Afrique ont augmenté de 4 %. 580 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'appui financier que la Chine vient d'apporter au chanteur Akon. Ces fonds lui permettront, à travers son initiative Akon Lighting Africa, de fournir de la lumière à près de 16 millions de foyers en Afrique. Akon a déboursé à titre personnel plus de 100 millions de francs CFA pour démarrer ce projet.
Maintenant, la page sport avec Tatiana Mosso. Tatiana, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football pour commencer et cette nouvelle de l'UEFA, l'Espagnol Angel Maria Villar renonce à sa candidature.
Oui, le président de la Fédération Espagnole de Football a annoncé mardi qu'il retirait sa candidature à la présidence de l'UEFA lors de l'élection prévue le 14 septembre, disant vouloir se consacrer à sa réélection à la tête de la Fédération Espagnole. Sa défection laisse le champ libre au Néerlandais Michael Van Praag et au Slovène Alexander Serafin, les deux candidats restant en lice. Le quotidien sportif madrilène AS a rapporté mardi soir que Villar aurait pris cette décision après s'être rendu compte qu'il ne réunissait pas les soutiens nécessaires pour remporter le scrutin et ne disposait pas de l'appui de plus grandes fédérations européennes comme la France, la Russie ou l'Allemagne. Villar, qui a 66 ans et qui est vice-président de l'UEFA et vice-président de la FIFA, est le patron du football espagnol depuis 1988 et a été réélu sans discontinuer depuis.
Et du côté mondial 2018, le Salvador dénonce une tentative de truquer son match face au Canada.
Effectivement, les joueurs de la sélection de football du Salvador ont dénoncé face à la presse avoir reçu une offre d'argent pour truquer leur match de mardi face au Canada afin de favoriser le Honduras. Lors d'une conférence de presse lundi soir à Vancouver, au Canada, les footballeurs menés par leur capitaine Nelson Bonilla ont accusé l'homme d'affaires salvadorien Ricardo Padilla de leur avoir offert de l'argent pour remporter ce match ou en tout cas ne pas le perdre sur une différence de plus d'un but.
Et quelques résultats des derniers matchs?
Oui, le Portugal, champion d'Europe, défait par la Suisse 2-0, la Suède et les Pays-Bas 1-1 et un autre match nul pour les îles Féroé face à la Hongrie 0-0. La France, finaliste de l'Euro 2016, n'a pas réussi à faire mieux qu'un petit match nul 0-0 face au Bélarus. Et pour démarrer sa campagne de qualification pour le Mondial 2018, la Bulgarie bat le Luxembourg 4-3.
Tennis à New York avec l'US Open.
Le Français Gaël Monfils a mis fin au beau parcours de son jeune compatriote Lucas Pouille à l'US Open en le dominant en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3 mardi en quart de finale. Monfils disputera à tout juste 30 ans la deuxième demi-finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem après Roland Garros en 2008.
Je pars olympique après les JO, Rio rallume la flamme dans le stade Maracana.
Et oui, entre défis financiers et quête de ferveur populaire. Après une quinzaine olympique, la première en Amérique du Sud mitigée et en pleine crise politique et économique, la mégalopole brésilienne accueille du 7 au 18 septembre plus de 4300 sportifs handicapés venant de 161 nations, tous prêts à en découdre sur les terrains pour faire oublier leur handicap.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Crise présidentielle au Gabon, l'Union européenne a annoncé mardi avoir relevé une évidente anomalie dans les résultats du Haut-Ogooué. Cette province, selon les résultats officiels, a enregistré un taux de participation de 99,93% et permis à Ali Bongo d'être réélu avec 5594 voix d'avance sur Jinping. Jeudi étant la date limite pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle, Nathalie Barge a demandé à Jinping si l'opposition comptait le faire.
La Cour a affaire à des contentieux après. Donc le problème vient de la commission électorale. C'est là qu'il y a eu des problèmes, notamment dans les décomptes des voix du Haut-Ogooué. C'est donc là qu'il faut d'abord régler les problèmes. Et nous sommes en train de les examiner. Nous avons accepté tous les procès-verbaux, même ceux lorsqu'il y avait des petites divergences que nous contestions. Le Haut-Ogooué posait problème, parce que les résultats du Haut-Ogooué sont totalement invraisemblables. Et c'est là où il y a un problème. Il faut d'abord résoudre ce problème à ce niveau-là.
Qu'est-ce que vous attendez de cette délégation de l'Union africaine et des Nations unies qui devraient se rendre prochainement à Libreville?
Il y a les Nations unies qui ont fait une déclaration. Il y a l'Union européenne qui a signé avec le gouvernement un contrat pour observer les élections, qui a aussi annoncé ses résultats. Il y a la France, l'Union africaine, il y a donc tous ces corps se sont prononcés. Nous attendons de toute la communauté qu'on dise le droit et que la vérité des urnes soit reconnue, c'est tout.
Qu'en est-il de la mobilisation aujourd'hui?
J'ai lancé un appel au calme et à ma surprise, les violences se sont arrêtées de notre côté. On nous a dit qu'on a lancé le même appel du côté du gouvernement, qui n'a jamais donné un signe. Les morts continuent, on tue, on pille. L'ironie du sort, le pouvoir annonce 3 morts. Nous comptons à Libreville seulement entre 50 et 100 morts et les organisations qui s'occupent de ces choses-là nous disent, c'est pas nous qui aurait 300 morts.
Est-ce qu'il y a encore des personnes de l'opposition qui sont arrêtées?
Nous avons 1000 personnes au moins arrêtées parmi nos non-militants. On ne nous permet même pas d'aller les voir dans les hôpitaux et dans les prisons. On nous empêche même d'aller voir dans les morgues.
Est-ce qu'il y a des noms de leaders qui sont éventuellement en état d'arrestation que vous pourriez citer?
Oui. Oui, bien sûr, je peux vous y citer, par exemple, M. Bertrand Zibi Abagé, qui est quelqu'un qui a démissionné il y a à peine un mois, qui était avec Ali. Il est à la DGR, à la Direction Générale des Renseignements.
Que pensez-vous, M. Ping, de la démission du ministre de la Justice?
Il est vice-premier ministre, ministre de la Justice. C'est un des grands barons du régime. Et il s'est expliqué, nous pensons que c'est un homme courageux qui n'a pas voulu assumer les violences du régime.
Est-ce que vous vous attendez à plus de défections, d'une certaine manière, du côté d'Ali Bongo?
C'est en cascade. Le général commandant en chef de l'armée vient de démissionner, M. Bibaye.
Nous n'avons pas pu vérifier cette dernière information de M. Ping, qui a dit à VOA Afrique la détenir de sources sûres.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dialogue politique en République démocratique du Congo, la journée d'hier était consacrée à l'exposé du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga a évoqué l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée depuis juillet dernier. Il a donc confirmé que le travail de constitution du fichier électoral prendra 468 jours, soit 16 mois et un jour. Le débat se poursuit ce mercredi, mais en attendant, les points de vue des participants sont loin de s'accorder. Précision de Walter Q de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les différentes composantes ayant été éclairées sur l'ensemble du processus électoral, un débat de fond sera engagé. Il sera question pour les uns et les autres de passer au peigne fin les trois différentes hypothèses suggérées par la CENI sur l'organisation des élections, notamment présidentielles, selon la contrainte constitutionnelle avec l'ancien fichier électoral et ses imperfections, soit lever l'option de dépasser le délai constitutionnel en attendant un nouveau fichier crédible. Léonard Che Okitundu est porte-parole de la composante. Majorité.
Nous avons entendu le représentant des Nations Unies. Il a donné trois versions pour la révision du fichier électoral. La première voudrait qu'on respecte les délais constitutionnels. Les deux autres hypothèses, c'est celles qui ne respectent pas le délai constitutionnel, mais soumettent la révision partielle et même totale du fichier électoral à 8 ou même à 10 mois. Tout ce que moi je peux dire pour l'instant, c'est que la meilleure solution, c'est celle adoptée par la CENI. Ça ne sert à rien de s'entêter à respecter le délai constitutionnel alors que le corps électoral n'est pas encore déterminé.
À l'opposition, on indique qu'au courant de ce débat, les acteurs seront appelés à assumer la responsabilité de leur choix. Vital Kamere est co-modérateur de l'opposition.
C'est la question cruciale pour laquelle nous sommes venus ici. Savoir, est-il possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Pour chaque option, les Congolais doivent se rencontrer pour dire que nous, Congolais, nous acceptons les fichiers de 2011. Et là, nous allons dans les élections, dans un délai plus ou moins constitutionnel. Ce fichier-là a été qualifié de corrompu. Non, nous devons avoir le courage de dire, est-ce que nous acceptons ce fichier-là malgré ses imperfections? La discussion que nous aurons, ça sera d'abord le débat général, en toute responsabilité. Bien sûr, nous allons établir des responsabilités. Il y a eu des manœuvres dilatoires qui nous ont causé ces retards.
Côté société civile, on indique que l'intérêt de la nation revient à lever des options qui assurent les élections crédibles dans un climat apaisé. Valentin Vangui est président de la coordination de la société civile du Congo central.
Il y a le délai constitutionnel d'un côté, de l'autre côté, il y a les contraintes techniques et donc nous sommes obligés de voir l'intérêt supérieur de la nation. C'est que qu'est-ce qui peut être fait même tard, mais quand on le fait, tout le monde est d'accord du résultat. Voilà ce qui nous anime dans le débat que nous allons avoir ce mercredi pour que à la fin, on dise, c'est vrai qu'il y a les contraintes des constitutionnels, mais il y a la paix qu'il faut sauvegarder, dégager un consensus qui va permettre à la CENI de dégager un calendrier électoral.
Côté Nations Unies, on promet apporter appui à l'option qui sera levée. Mamadou Diallo est représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC.
Il se trouve que c'est une question qui trouvera une meilleure réponse à travers les assises qui sont en train de se tenir, parce que c'est une question qui trouvera une meilleure réponse avec les acteurs politiques congolais. Une fois que les acteurs congolais auront décidé qu'est-ce qu'ils ou elles veulent faire, il nous appartiendra, dans le cadre de la résolution 2277, d'accompagner ce mouvement pour nous assurer que quand il y a des élections dans ce pays, qu'elles soient inclusives, crédibles, transparentes et qu'elles reflètent la volonté des Congolais et des Congolais.
Kinshasa, Walter Nkouille de Top Congo pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Tchad, l'arrestation de militaires après le scrutin présidentiel du 10 avril continue de défrayer la chronique à N'Djamena. Arrêté et séquestré à la présidence pendant 3 mois et demi, le responsable de la coordination de transmission de la défense délégué à la présidence de la République vient d'être libéré sans autre forme de procès, nous signale notre correspondant sur place, André Kotmajingar.
Commandant Manayel Najita a été arrêté le 10 mai dernier à la veille de son évacuation sanitaire sur instruction du directeur des renseignements militaires. On lui reproche de s'infiltrer dans le cortège présidentiel, trouble à l'ordre public et espionnage à la solde des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle. Victime d'un accident cardiovasculaire, il n'a reçu aucune visite ni de son médecin traitant ni de sa famille durant toute la période de sa détention. Libéré le 30 août 2016, sans une forme de procès, il respire difficilement et évite tout contact selon son entourage. Le président du Cap Sûr, Joseph Dimrangar Dadnadji, se dit surpris des motifs évoqués pour arrêter le commandant Manayel Najita.
Manayel, c'est un parent spirituel. Il fait ce travail sous la crainte de Dieu. Nous savons que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si Dieu décide aujourd'hui que ça s'arrête, aucune force dans ce monde ne peut l'empêcher. Nous avons cette conviction-là. Donc, pourquoi aller rester dans des groupes fomentés dessus? Non, ça relève des entreprises sataniques. Nous, on n'est pas dedans. Les gens qui font des coups d'État sont des gens faibles. Lui étant des transmissions, c'est un gars qui devait plutôt décoré. Il est militaire, prison, il faut le mettre dans le dossier des militaires d'histoire. Et il est libéré en même temps que le procureur qui dit « je ne poursuis plus ».
Pour le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et représentant de la FIDH auprès de la CEMAC d'Obian à Singar, le cas de ce commandant ne sera pas resté impuni.
C'est un cas que nous avons enregistré et qui fait partie des dossiers que nous gérons. Ils l'ont gardé pendant 3 mois, séquestré, injustement. Et au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que finalement, il n'a rien fait. On l'a libéré sans un procès quelconque. Il faut contre-attaquer à nouveau. Puisqu'on ne lui reproche rien et on l'a séquestré pendant 3 mois, est-ce que nous allons laisser cette affaire tomber ? Non.
Dobian Assingar déclare par ailleurs que l'arrestation du commandant Manael Nagita rentre dans la catégorie des militaires qui ont été arrêtés et séquestrés après le scrutin présidentiel du 10 avril dernier.
Cette histoire n'est pas de la science-fiction. C'est une histoire réelle qui s'est passée malheureusement dans ce pays où plus d'une soixantaine de militaires ont été séquestrés, déportés et torturés sous prétexte qu'ils ont voté pour l'opposition. Nous avons ces plaintes qui sont là, des dossiers bien constitués. Et si le pouvoir persiste, nous sortirons tout, y compris les témoignages audio, visuels, les plaintes et la liste de ceux qui ne sont pas encore revenus.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Présidentielle américaine 2016, à 9 semaines du scrutin, la course entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump s'annonce très serrée. Un nouveau sondage CNN Oasi, publié hier, attribue à Trump une légère avance sur Clinton, 45 à 43%, tandis qu'une série de sondages compilés par RealClearPolitics.com lui donne un avantage d'environ 3 points. Eric Manirakiza.
Clinton avait pris une avance de 8 points sur Trump juste après les conventions de nomination présidentielle en juillet. Mais le rebond acquis semble maintenant s'être évaporé. Au regard du vote général à travers tout le pays, les résultats état par état se rapprochent. C'est surtout dans environ 10 états clés où se joue réellement la bataille électorale et qui finalement tranche. L'élection présidentielle américaine n'est pas déterminée par le vote populaire national, mais plutôt dans chacun des 50 États sur base des résultats pondérés par sa population. Un sondage du Washington Post a révélé hier qu'une enquête effectuée sur 74 000 électeurs inscrits au cours des 3 dernières semaines d'août, Clinton conserve un avantage dans le collège électoral parce qu'elle gagne les États les plus peuplés. Le quotidien américain précise que Clinton est en avance de 4 points sur Trump, ou plus dans 20 États. Ceci s'ajoute à 244 des 270 votes du collège électoral dont elle a besoin pour devenir 45e président des États-Unis. Trump est également en avance par la même marge dans 20 États, mais comme il s'agit de petits États, son avance lui permet seulement d'atteindre 126 votes électoraux. Le Post ajoute que dans le reste des 10 États qui totalisent 168 votes électoraux, aucun des deux candidats ne sécurise une avance de 4 points ou plus. Toutefois, la majorité de Clinton se rétrécit à cause notamment du candidat libertarien Gary Johnson et celui du Parti vert Jill Stein également dans la course.
Eric, comment ces sondages sont-ils interprétés par les spécialistes ?
Eh bien, Idrissa, le politologue John Sides de George Washington University dit que l'écart diminue au niveau national, mais reconnaît une longueur d'avance à Clinton. De son côté, John Hudak, directeur adjoint du Centre pour la gestion publique efficace, estime que les nouveaux chiffres de la dernière ligne droite de la course publiée par CNN s'annoncent serrés. En revanche, il souligne qu'il est assez clair que Clinton dispose d'un avantage notable au niveau des États.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité, Georges Léonard Sagno pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VO Afrique.